Donc, bonjour, on va commencer le cours de cette année. Vous voyez, pour les habitués, on a changé de salle. Bon, il faut que les choses changent de temps à autre. Par contre, je vais traiter, toujours dans le cadre d'une histoire globale, le thème que j'ai choisi pour cette année, récits autobiographiques et égodocuments à l'époque moderne. Et que ce que j'ai l'intention de faire, donc, c'est de commencer aujourd'hui avec quelques considérations assez larges et aussi historiographiques portant sur les réflexions depuis un certain temps autour de ce genre de thème. Bien sûr, sur les cas européens, mais en visant plus large, car c'est un peu le but de notre affaire, de ne pas se restreindre aux limites de l'histoire européenne, qui est aussi d'ailleurs traitée par d'autres dans cette maison. Je vais donc par la suite commencer à développer toute une série d'études de cas. Et d'ailleurs, dans la deuxième moitié du cours d'aujourd'hui, j'ai déjà l'intention d'aborder ce genre de traitement plus précis d'un texte ou d'une série de textes portant sur justement l'époque moderne. Alors donc, où commencer? On a plusieurs possibilités et je vais donc, plutôt que choisir un point de départ, je vais choisir plusieurs points de départ, mais il y a quand même quelques passages qui, à mon avis, sont obligatoires quand on parle de égodocuments et de récits autobiographiques à l'époque moderne. Pour moi, et comme pour la plupart des gens qui ont travaillé ce genre de sujet, ça, c'est un livre qu'on ne peut pas éviter quand on pense à ce genre de questions. Le grand livre de Jacob Burckhardt, historien suisse, La civilisation de la Renaissance en Italie, écrit d'abord en allemand, puis traduit en plusieurs langues, dont la version française que vous voyez ici. Malheureusement, comme je viens tout juste d'arriver de Californie, pour les quelques citations que je vais donner de ce livre, je n'ai pas pu accéder à la version française. Donc je vais utiliser la version qui était facilement disponible, mais le texte en anglais qui n'est pas très, très difficile à suivre. Voilà donc Burckhardt qui était un des pionniers de ce genre de traitement qui a lié donc l'idée de textes autobiographiques avec la naissance de l'homme moderne, l'homme de la Renaissance. Et on va revenir aux exemples qu'il a choisis et qu'il a développés pour voir comment en fait ces exemples ont fonctionné, mais aussi comment, jusqu'à un certain point, ces exemples ont en quelque sorte faussé le débat. Parce qu'il a choisi des exemples qui étaient à la fois tellement forts et tellement spécifique que c'était parfois un peu difficile de généraliser à partir des textes et des personnages qu'il a choisis. Mais il y a aussi, comme je vous ai dit, d'autres points de départ. Et je vais donc laisser de côté pour l'instant, mais je vais revenir sur Burckhardt, choisir un autre point de départ, peut-être moins connu, mais néanmoins très intéressant, qui sont donc les écrits du grand médiéviste russe Aaron Gurevitch. Donc, Gurevitch, qui a été donc très lié, comme on le sait, avec l'École des Annales. Il a beaucoup travaillé notamment avec Jacques Le Goff. Et à un moment donné, dans les années 80, il a été sollicité justement par Jacques Le Goff pour écrire ce livre dans le cadre d'une histoire de l'Europe. Et ça fait partie donc d'une série qui a été publiée en langue multiple, plus ou moins simultanément. Là, vous voyez les deux versions que j'ai pu trouver en images. Et il existe bel et bien, si je ne me trompe pas, une version française aussi. Mais voilà, donc, la version espagnole, la version anglaise, sur les origines de l'individualisme européen. Alors, dans ce livre, donc, Gurevitch a essayé de surprendre en quelque sorte ses lecteurs. Parce que plutôt que de prendre la voie de Burckhardt, c'est-à-dire commencer par le sud, commencer par l'Italie ou avec la Renaissance, il nous propose un autre point de départ. Et je reviens ici sur un entretien qu'il a donné juste avant sa mort, qui est sorti d'ailleurs dans une revue indienne, où il a abordé, donc c'est un entretien où il répond à des questions d'un de ses collègues russes, portant sur les travaux qu'il a faits sur l'individualisme et sur la personnalité. Hein. Donc, son interlocuteur demande, alors qu'est-ce que vous voulez dire en résumé sur la personnalité et le rapport entre personnalité et christianisme? Et puis, on a la réponse de Gurevitch qui nous dit qu'en effet, pour lui, le concept de personnalité ou d'individualité est un produit du christianisme. Et dans d'autres cultures, l'idée de personnalité est beaucoup moins prominente. Et là, donc, il fait référence, comme il faut, à Burckhardt en disant que c'était Burckhardt qui a proposé l'idée selon laquelle c'est la Renaissance qui a donné naissance à la personnalité humaine telle comme c'est conçu, et ainsi de suite. Mais il dit que, bien sûr, on peut aussi remonter plus loin dans le Moyen Âge. Il cite notamment Saint Augustin, ça c'est quand même encore une fois une référence obligatoire. Mais là, il nous donne son point de vue un peu autre, un peu surprenant. C'est-à-dire, plutôt que de commencer par le sud, il nous dit qu'en fait, il faut commencer avec l'extrême nord de l'Europe. Donc il dit, en fait, c'est plutôt en regardant l'extrême nord, notamment l'Islande, les pays scandinaves, etc., qu'on peut trouver un autre type d'individualisme, un autre type d'ego, hein, préoccupé avec la gloire, la réputation personnelle, l'honneur, la dignité, etc. Donc, c'est une vision complémentaire à cette autre vision qu'a donc Burckhardt. Cette vision est donc un ego très autocentré, agressif, et ainsi de suite, tandis que la personnalité chrétienne est un peu le résultat de ce paradoxe qu'on a dans le christianisme même, et ainsi de suite. Donc, ce qu'il nous propose, c'est tout d'abord que l'étude de la personnalité est très importante, et il a envie de se démarquer un peu de sa tradition, sa propre tradition, parce que Gurevitch avait en fait une relation très compliquée avec le marxisme soviétique. Il était historien officiel à l'époque de l'Union soviétique, mais il prenait ses distances par rapport à ça. Il nous dit qu'en effet, il n'est pas d'accord avec l'idée que les individus ne sont pas importants dans leur agentivité. Et en fait, il affirme que, même d'une façon un peu exagérée, que le talent individuel, c'est le moteur en quelque sorte de l'histoire. Et puis, il développe cette idée donc, de deux types d'individualisme, celui du Sud, prôné par Burckhardt d'un côté, et puis celui du Nord, qui est pré-chrétien, qui est déjà dans les pays nordiques avant leur conversion au christianisme, et en quelque sorte qui précède pour lui l'individualisme venant plus tard dans le cadre de la Renaissance. Donc, en effet, ce n'est pas comme s'il était en train de nier la thèse de Burckhardt, tout simplement de proposer qu'il y a au moins deux voies possibles vers l'individu et la voie individuelle, la voie des individus, cette affirmation qui va aussi produire donc les autobiographies et les égodocuments dans l'époque donc médiévale et puis à l'époque moderne. Alors si on cherche un peu plus loin, on se rend compte que soit consciemment, soit inconsciemment, Gurevitch, en fait, était en train de reprendre une thèse qui était un peu plus ancienne. Et c'est une thèse qui est développée par le philosophe et le sociologue allemand Georg Simmel, qui a écrit donc cet article qu'on trouve dans ses ouvrages collectifs sur individualismus, publié donc en 1917. Il a toute une série d'articles autour de ça, portant sur des aspects plus précis de cette notion d'individualisme. Et parmi les idées de Simmel, il y a pas mal d'idées intéressantes, mais surtout, il a cette idée d'une opposition entre deux sortes d'individualisme, toujours dans le cadre européen. Donc, ce qu'il appelle l'individualisme latin ou quantitatif, où il s'agit de ce qu'il appelle la personnalité simplement libre, hein, et il trouve que les cas les plus frappants de ce genre d'individualisme se trouve à partir du XVIIIe siècle et des Lumières. Et donc, il choisit, on peut imaginer ce que ces exemples, qui sont des exemples assez connus, Rousseau et ainsi de suite, tandis qu'il développe l'idée d'un autre individualisme. Donc, vous voyez un peu le même genre de contraste qu'on trouve chez Gurevitch, hein, ce qu'il appelle, lui, l'individualisme germanique et qualitatif, où on a une personnalité simplement unique. Et donc, il associe ça, bien sûr, avec le romantisme du XIXe siècle. Et voilà, donc, un petit texte de Zemel où il développe un peu cette opposition entre deux sortes d'individualisme européen. Il dit « J'aimerais cependant mieux croire que l'idée de la personnalité simplement libre et celle de la personnalité simplement unique ne sont pas encore le dernier mot de l'individualisme, que le travail de l'humanité suscitera des formes toujours plus nombreuses et variées grâce auxquelles la personnalité s'affirmera, prouvera la valeur de son existence. » Donc, ce n'est pas la fin de l'histoire, mais au moins, c'est à partir de cette espèce d'opposition complémentaire qu'on peut développer l'idée. Si, durant les périodes heureuses, ces diversités se combinent en harmonie, leurs contradictions et la lutte qui implique ce travail ne constituent pas seulement des obstacles, mais elles appellent à nouveau déploiement de force et conduisent ce travail vers de nouvelles création. Alors, ce texte de Zemel, même si ce n'est pas un texte énorme, et ce n'est certainement pas parmi les textes les plus célèbres de Zemel, qui a été beaucoup plus connu pour ce qu'il a écrit, par exemple, portant sur l'argent et ainsi de suite, ça a eu un effet sur d'autres qui ont écrit par la suite, certainement sur Weber, mais aussi sur Norbert Elias, qui a aussi développé ses propres thèses sur l'émergence historique de l'individu et de la personnalité individuelle, un peu dans le sillage de ces idées de Zemel. Et à mon avis, en fait, en quelque sorte, comme j'ai dit, soit consciemment, soit inconsciemment, ça pèse quelque part aussi sur cette espèce d'opposition qui est développée beaucoup plus tard, dans les années 80, par Aaron Gurevitch. Mais il y avait quand même quelqu'un d'autre qui avait abordé la question d'une façon beaucoup plus variée et, pour moi, beaucoup plus intéressante. Et ça, c'est Marcel Mauss. Dans un texte qu'il a écrit dans les années 1930, donc après Zemel, c'est pas tout à fait clair s'il avait connaissance ou non du texte de Zemel à l'époque. C'est possible, mais il ne le cite pas. Et Mauss, quand il a été invité en 1938 à donner les Huxley Memorial Lectures, il a développé cette idée dans le texte qui s'appelle « Une catégorie de l'esprit humain, la notion de personne, celle de moi ». Et alors donc, il nous dit au point de départ, c'est un petit texte qui fait à peine 20 pages, il nous dit que le sujet, donc, c'est la personne, et il ne s'agit de rien de moins que de vous expliquer comment une des catégories de l'esprit humain, une de ces idées que nous croyons innées, est bien lentement née et grandit au cours de longs siècles et à travers de nombreuses vicissitudes, tellement qu'elle est encore aujourd'hui même flottante, délicate, précieuse et à élaborer davantage. C'est l'idée de personne, l'idée du moi. Tout le monde la trouve naturelle, précise au fond de sa conscience, tout équipé au fond de la morale qui s'en déduit. Il s'agit de substituer à cette naïve vue de son histoire et de son actuelle valeur une vue plus précise. Mais comment faire? Alors, comme vous le savez, même si Mauss était une espèce d'esprit universel et qui avait une connaissance énorme de beaucoup de domaines tout à fait divers, il n'était pas très historien quand même. Donc, il n'a pas voulu finalement centrer son enquête sur la question de l'évolution historique. Il a choisi la diversité culturelle comme point de départ. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il nous donne une série de cultures différentes dans le cadre desquelles, en fait, on a des notions de personnes qui sont tout à fait différente. Et il nous explique comment, en fait, ces sociétés, avec leur vocabulaire, avec leurs conditions matérielles, et ainsi de suite, ont donné naissance à des notions de la personne qui étaient toujours extrêmement variées. Il n'insiste pas trop, d'ailleurs, sur l'aspect de langage. Mais c'est plutôt sur le type de lien de parenté, structure de société, et ainsi de suite. Mais voici ces exemples. Ces exemples sont quand même assez étonnants. Ils commencent donc avec les Indiens Pueblo. Donc, rien à voir avec l'Europe. Il nous dit qu'à partir du travail des anthropologues comme Cushing et Stevenson, qui était déjà à l'époque, dans les années 1930, un peu démodé, mais néanmoins, qui avait traité avec un travail de terrain l'expérience des Indiens Pueblo de l'Amérique, on peut voir comment, en fait, chez eux, on a un certain type de notion de moi, de l'individu, qui est tout à fait différent par rapport à ce qu'on trouve, par exemple, en Europe. Deuxième exemple qu'il prend, cette fois-ci toujours en prenant les travaux d'un ethnologue, Franz Boas, donc avec les Quakiut, les gens du nord-ouest américain, donc ce qu'on appelle aujourd'hui au Canada les Premières Nations. Donc là encore, il nous donne pas un développement historique, mais plutôt un exemple pour nous expliquer comment, en fait, dans ces cultures, on avait des notions fortement développées, mais culturellement spécifiques de ce qu'était la personne. Et puis, il nous donne des exemples. Là, troisième exemple, c'est les indigènes, les aborigènes de l'Australie. Et finalement, il arrive à des pays qui ont, disons, une tradition textuelle plus développée. Il a quelques passages, d'ailleurs, fort intéressants sur l'Inde. Je vais revenir sur ces passages-là. Puis, quelques remarques portant sur la Chine. Et finalement, il arrive vraiment enfin au cas européen avec les Romains, les Grecs et finalement la personne chrétienne, mais seulement pour développer cette idée justement que la notion de la personne n'a rien de spécifiquement ni chrétien ni européen, mais qu'il y a une diversité de possibilités. Donc plutôt que de prendre le genre de développement qu'on trouve par exemple plus tard chez Gurevitch, où il évite de parler presque entièrement du monde en dehors de l'Europe, comme s'il n'y a pas question, ou ce n'est pas intéressant de développer cet aspect-là, en fait, Mauss nous donne un tout autre exemple. Mais malheureusement, ce texte de Mauss, écrit en 1938, a été oublié à peu près pendant 35-40 ans. Et puis, ça a été repris, mais je vais juste vous citer ce petit passage portant sur l'Inde, pour vous donner un exemple du type de travail qu'il fait, parce que Mauss était quelqu'un qui combinait à la fois un travail basé sur l'ethnologie avec un travail textuel, comme il était, par exemple, très en contact avec les grands sanskritistes et les indologues à Paris. Donc là, il développe l'idée que, il dit, l'Inde me semble avoir été la plus ancienne des civilisations qui a eu la notion de l'individu, de sa conscience. Que dis-je du moi, le ahankara, hein, la fabrication de je est le nom de la conscience individuelle, aham, je. Hein, c'est le même mot indo-européen que ego. Il dit, le mot ahankara est évidemment un mot technique fabriqué par quelque école de sages voyants supérieure à toutes les illusions psychologiques. Le Sankhya, l'école qui justement a dû précéder le bouddhisme, soutient le caractère composé des choses et des esprits, Sankhya veut précisément dire composition, considère que le moi est la chose illusoire. Le bouddhisme, lui, dans une première partie de son histoire, décrétait de ce que n'était qu'un composé divisible, sécable de skandha, et on poursuivait l'anéantissement chez le moine. Donc, puis il nous dit, par exemple, il répond cette phrase qui reste même aujourd'hui une espèce de cliché même en Inde, ce remarque qui est fait par Krishna dans le cadre de la Bhagavad Gita Arjuna, c'est-à-dire « Tattvamasi, tu es cela ». Voilà, donc démarquons très bien la position de l'individu dans cette affaire. Mais comme je vous ai dit, le texte de Mauss a été en quelque sorte oublié pendant 35-40 ans. Ça a été repris dans les années 80, dans une série de livres que pour moi restent quand même très intéressants. Le premier livre, celui que vous voyez à gauche, est un livre qui a été le résultat d'une enquête où on a pris le texte de Mauss et on a donné ça à une dizaine de personnes, des spécialistes de différents culture dans le monde, et on leur demandait des commentaires sur le texte de Mauss. Et là, vous avez, par exemple, Michael Carruthers ou Stephen Collins, ce sont les plus grands spécialistes de la religion bouddhiste qui ont repris ce texte de Mauss pour commenter et pour reprendre, en fait, comment, à partir de l'anthropologie, la philosophie, l'histoire, la catégorie même de la personne était à repenser comme quelque chose qui n'était pas fixe, qui n'avait pas une seule histoire qui était une histoire européenne, mais une histoire qui était variée et variable selon les cultures et selon les histoires. Le même genre de choses a été plus tard développé, mais peut-être pas d'une façon si convaincante que ça, par Gavin Flood, toujours spécialiste de la religion, où en fait il a essayé de reprendre cette notion de moi ou de la personne en faisant une espèce de comparaison entre christianisme, hindouisme, et bouddhisme, dans ce livre « The Truth Within ». Et puis, finalement, vous avez le livre portant sur la Chine de Wu Peiyi, où il va donc aborder justement comment il y a, contrairement à ce qu'on a souvent pensé, pas mal de textes qu'on peut classer comme égo-documents dans le cadre chinois, même si, et confucien, même si il y a la question, le problème qui se pose de savoir s'il s'agit vraiment de la autobiographie stricto sensu ou non. Alors, dans le cas de l'Inde, et je vais revenir plus tard dans cette série de cours, en fait, avec quelques exemples très intéressants indiens, comme le livre du marchand Jain Banarsidas, qui a écrit un texte qui a été récemment aussi traduit en français sous le titre « Histoire et demi ». En hindi, le texte s'appelle « Ardha Kathanak ». On peut prendre ça ou on peut prendre toute une série d'autres textes, pas publiés, mais écrits en Inde à l'époque moderne. Mais je vais juste vous signaler que, malheureusement, pendant un certain temps, ces textes ont été délaissés à cause d'une certaine confusion qui a été créée, notamment par une école d'anthropologues et de sociologues de Chicago, dont le chef de file était M. McKim Marriott, qui a voulu donc construire ce qu'il appelait une ethnosociologie indienne, dans laquelle son idée centrale, c'est qu'il n'y avait absolument pas d'individus en Inde. En fait, il a voulu développer cette notion que, à mon avis, heureusement, n'a pas eu beaucoup de succès, de dividu. Donc, il nous a expliqué que la civilisation indienne était entièrement basée sur les dividus plutôt que des individus. Et donc, du coup, c'était inutile de chercher des égo-documents ou des récits autobiographiques et ainsi de suite en Inde, car on ne le trouverait pas, parce que les Indiens n'étaient pas capables de penser l'individualisme. Si vous avez essayé de faire des affaires en Inde dans les 10 dernières années, vous serez surpris par cette idée qu'il n'y a pas d'individualisme en Inde. Alors, donc, je laisse de côté cet aspect indien pour aujourd'hui. Je vais revenir certainement plus tard. Mais pour poursuivre un peu mon idée de comment ces notions de l'individu dans le cadre de l'histoire européenne et l'individu dans le cadre de l'histoire extra-européenne ont marché, il faut quand même que je mentionne un autre développement, aussi des années 80, donc plus ou moins au même temps qu'on a eu ce livre de Carruthers et Lux et Collins portant sur la catégorie de l'individu. Et ça, ça vient plutôt du milieu littéraire et c'est normalement associé avec l'historien de la littérature anglaise Stephen Greenblatt, qui a donc écrit ce livre qui fait date, qui est devenu une espèce de formule qu'on utilisait maintes fois, l'idée donc de façonnement de soi ou de self-fashioning. Et là, on retrouve un certain nombre d'idées plus anciennes, d'idées de l'individu qui est un espèce de produit, un produit dans un cadre. Alors, dans ce cas précis, en fait, c'est écrit dans un langage plus ou moins foucauldien, l'individu qui est produit par l'espace créé entre ses propres désirs et la pression de l'État, et donc l'individu qui à la fois est en train de se produire, de se cacher, de jouer avec des masques et ainsi de suite. Donc l'individu qui dit la vérité mais aussi les mensonges est en fait l'idée centrale de cette espèce de façonnement, de production de soi, c'est ce jeu justement entre, de cache-cache entre le vrai visage et une espèce de visage fabriqué pour la consommation publique. Donc ça, ça c'est Greenblatt en utilisant surtout les matériaux venant de Shakespeare, mais aussi d'autres écrivains de l'époque élisabéthaine. Mais une fois qu'il a, il a soutenu cette notion de la façonnement de soi à l'époque de la Renaissance, ça a eu pas mal de succès. Vous voyez ici que ça a été repris dans le cadre ibérique. Il y a donc, autour des questions de l'assomption d'identité, des imposteurs, un grand thème encore de l'époque moderne, et puis self-fashioning, le façonnement de soi. Là, vous voyez un ouvrage collectif. Et de, maintenant, c'est devenu tellement répandu que, pour, par exemple, là, c'est un colloque, justement, en Israël, portant sur le self-fashioning dans un cadre musulman, et Timouride en particulier de la fin 15e, début 16e siècle, où on essaie de voir comment on peut faire fonctionner ces concepts et ces conceptions de Greenblatt dans un cadre tout à fait autre que donc celui de l'Asie centrale à l'époque de la fin du 15e, début du 16e siècle. Alors, mais... il y a aussi des gens qui ont essayé de systématiser toute cette littérature diverse, surtout en prenant les cas européens, hein, c'est-à-dire ces tendances assez différentes, ces tendances assez diverses depuis le temps, disons, de Zimmel en allant jusque dans les années 80. Juste pour la référence, je trouve extrêmement utile, même si c'est discutable sur un certain nombre de points, cet article-là, qui est écrit par l'historien allemand Winfried Schulze, où il essaie en fait, de développer cette notion beaucoup plus large que le récit, l'autobiographie, ou le récit en première personne, parce que, bon, première personne, ça aussi, ça pose problème, parce que souvent, les gens peuvent écrire sur eux-mêmes sans utiliser la première personne. Donc, on a ce problème aussi. Et voilà donc Schulze qui avait pas inventé, mais développé cette notion que j'ai aussi empruntée pour le titre du cours de cette année de ego document. Hein, ego document. Et donc, dans ce texte qui sert comme introduction pour un ouvrage collectif portant sur le sujet, il a donc essayé de développer différentes sortes de égo-documents. Il nous a fait une espèce d'analyse et aussi il a essayé de partager des égo-documents en plusieurs sortes. Tout d'abord, il développe cette idée qui est utile mais aussi discutable parce que pour lui, il y a donc deux sortes de documents. Il y a ce qu'il appelle les Freiwilligen et les Unfreiwilligen, c'est-à-dire ceux qui sont le produit de la libre volonté et qui ne le sont pas. Parmi ces documents, toujours en mélangeant les deux catégories, hein, il y a donc ce qu'il appelle les textes classiques, souvent originaires du milieu aristocratique et bourgeois, hein, les autobiographies, les Selbstzeugnis, les journaux, les récits de rêves, c'est une sous-catégorie assez intéressante, les Traumniederschrift, et aussi les lettres personnelles dans lesquelles, par exemple, on parle de soi. Donc ça, c'est une catégorie qui rentre dans la première de ces sous-catégories. Ça, ce sont pour l'essentiel, Freiwilligen, ce sont des textes produits dans le cadre d'une libre volonté. Il y a aussi, là, il est en train de faire un partage plutôt par origine sociale entre la catégorie la première et la deuxième. Deuxième pour lui, ce sont les textes relatifs aux croyances et savoirs des gens simples, das Glauben und Wissen einfache Menschen, plutôt que les gens venant des milieux aristocratiques et bourgeois. Et il nous explique qu'en fait, à l'époque moderne, on a de plus en plus de ce genre de textes, tandis que si on remontait à l'époque médiévale et avant, on serait plus ou moins limité à la première catégorie, selon lui. Et finalement, la troisième catégorie correspond en fait plus au deuxième de ces deux premiers catégorie qu'il a développée, des Unfreiwilligen, c'est-à-dire des documents juridiques de l'Inquisition ou des procès donc produits dans des cadres de violence, où en fait la personne n'a pas le désir forcément de parler, mais il est obligé dans des circonstances de parler. On pense bien sûr au Meunier de Carlo Ginzburg. Pour prendre l'exemple le plus célèbre, peut-être l'histoire européenne du XVIe siècle, Menocchio qui a donc produit en quelque sorte un égo-document, mais qui était un égo-document qui n'aurait jamais eu lieu d'exister s'il n'avait pas été mis en examen par l'Inquisition. Et on peut prendre un certain nombre d'exemples venant de ce cadre. Mais ce qui fait d'ailleurs que là, dans le monde où il n'y a pas ces institutions d'oppression, il y a moins de ce genre de documents. En fait, on peut dire qu'un certain type d'ego document et d'histoire sociale basée sur les ego documents est tributaire entièrement à l'oppression. Donc, s'il n'y avait pas oppression, il n'y avait pas histoire, en quelque sorte. Au moins, il n'y avait pas document pour l'historien. Voilà, donc, on a ce troisième catégorie. D'ailleurs, dans le débat qui a eu lieu à la suite de ce texte de M. Schulz, en fait, il y a des gens qui ont voulu, en quelque sorte, nier que cette troisième catégorie rentre en réalité dans le cadre de l'égo-histoire. Et pour eux, en fait, c'était abusif de faire rentrer ce genre de documents et mélanger ce genre de documents avec les deux autres. Mais, comme je vous ai dit, ce texte de Schulz reste très utile, entre autres parce qu'il y a une énorme bibliographie très utile qui fait un peu le survol de tout ce qui est l'histoire européenne de l'époque moderne et même un peu avant. Revenons donc, finalement, à Burckhardt qu'on a laissé au départ. Pour voir où on était avec Burckhardt par rapport à cette situation des années 80-90. Quels étaient ses exemples? Est-ce qu'il s'est limité à un cadre beaucoup plus restreint que ce genre de cadre qui est donné ici par Schulz, où il y a en fait des centaines de milliers de documents possibles dans le seul cas de l'Europe? Si on prend toutes ces possibilités-là, en fait, on est dans une situation qui est tellement riche qu'il y a des gens qui ont même proposé que, sauf en utilisant les techniques quantitatives, c'était presque impossible de maîtriser cette espèce de masse, presque impossible de documentation. Mais quand Burckhardt avait commencé son travail, il avait une idée beaucoup plus limitée et beaucoup plus précise du type de document qu'il a voulu utiliser. Et vous savez que c'était ça le centre de son affaire. Le centre de son affaire, c'était le texte de Cellini. Le texte de Cellini qui a une histoire curieuse sur laquelle je vais revenir. Et voilà ce que dit Burckhardt. Je présente mes excuses parce que ici j'ai le passage en anglais, mais ce n'est pas très compliqué. Il dit que l'autobiographie de Cellini n'est pas basée sur l'introspection. Mais c'est quoi l'aspect merveilleux? C'est que c'est un texte qui est capable de décrire l'homme tout entier. Qu'est-ce que ça veut dire? Avec vérité et plénitude. Donc, il dit que, pour lui, Cellini n'était peut-être pas si important que ça en tant qu'artiste, parce que la plupart de ses œuvres n'ont pas survécu. Hein, mais il dit que c'est plutôt en tant qu'écrivain qu'il sera quelqu'un qui va intéresser l'humanité jusqu'à la fin du temps. C'est un peu exagéré quand même. Il dit que ce que ne gâche pas l'impression, c'est qu'il est souvent en train de mentir, en train d'exagérer. Mais ça, c'est le signe de quelqu'un qui a une nature qui est vraiment très, très développée. Et là, on voit Burckhardt, le Suisse un peu partagé entre le nord et le sud, hein, qui nous dit que par rapport à lui, nos autobiographes du nord, hein, c'est-à-dire le monde allemand et plus au nord, sont des gens incomplets et pâles. Donc, ils ne sont pas aussi riches. Donc, vous voyez, Burckhardt qui est quand même attiré vers la Méditerranée. Et ça, cette fameuse phrase, hein, c'est un homme qui peut tout, qui ose tout, et donc qui a en soi la mesure de lui-même. C'est cette phrase qui est souvent citée quand on parle de cette discussion sur Cellini. Il dit, on peut l'aimer, on ne peut pas l'aimer, mais la réalité, c'est que c'est un type d'esprit moderne qui est signifiant en tant que tel. Donc, voilà le cadre qu'il a pour Cellini, l'archétype. Et donc, le texte, on sait, c'est un texte assez curieux, écrit, bien sûr, au XVIe siècle, mais publié, finalement, au début du XVIIIe. Donc, pendant à peu près un siècle et demi, c'est resté manuscrit. Donc là, vous voyez la Vita di Benvenuto Cellini, et qui dit donc que c'est écrit da lui medesimo scritta et dédié donc à cet aristocrate anglais. Ce texte, donc, qui au XVIIIe siècle a eu un énorme succès, et d'ailleurs, il y a quand même un certain intérêt pour poursuivre le chemin de ce texte. Là, vous avez la version, une des versions françaises, mais en fait, c'est important de noter que Cellini est devenu très célèbre en allemand parce qu'il a été traduit par Goethe. Donc, vous avez ici « Leben des Benvenuto Cellini », donc la traduction de Goethe faite dans les années 1790 a rendu ce texte très célèbre. Mais on a parfois l'impression que Goethe a cuisiné Cellini un peu à sa propre sauce. Et puis, on a aussi l'impression que c'est à partir de Goethe que c'est rentré dans le cadre et dans la conception de Burckhardt portant sur la Renaissance. Donc, ici, j'ai juste pris un petit passage d'un article relativement récent de Cécile Terroscotto sur Cellini, où elle dit, de fait, la description que Cellini donne de la Vita dans son traité sur l'orfèvrerie, où il dit « Je me suis mis à écrire toute ma vie de mon origine et toutes les choses que j'avais faites en ce monde », correspond à la définition que Philippe le Jeune a établie de l'autobiographie. Ça, c'est une référence à un livre qui était considéré comme très important dans les années 60-70, « Le pacte autobiographique ». Philippe le Jeune, d'ailleurs, a développé cette idée d'ailleurs un peu discutable, selon laquelle l'autobiographie n'existait pas avant Rousseau, que Rousseau était le premier qui a écrit une autobiographie, et ce qui existait pour lui auparavant ne rentrait pas dans ce cadre. Elle, bien sûr, est en train de disputer ça, parce qu'elle trouve que Cellini rentre bel et bien dans le cadre. Et puis, elle dit, Cellini lui-même insiste d'ailleurs à plusieurs reprises sur la nature autobiographique de texte qu'il dicte à un apprenti après avoir commencé à l'écrire de sa propre main. Les pronoms sujets et les adjectifs possessifs à la première personne en sont l'indice le plus évident. J'écris ma vie tourmentée. J'avais commencé à écrire ma vie de ma main. Je lui dictais ma vie, répète Cellini tout au long de la première page du manuscrit. Cellini impose donc d'emblée à ses lecteurs une identité entre l'auteur, l'artiste, le narrateur, et le personnage, donc, c'est justement cette espèce de pacte autobiographique entre ces trois aspects. Alors, Burckhardt avait pris donc comme exemple central Cellini, donc pas un aristocrate, mais un orfèvre, un homme donc plus humble, si vous voulez. Mais il a aussi, bien sûr, un cadre plus général de gens qui ont écrit au XVIe siècle. Voilà, donc, les plus grands pour lui, les top hits, selon Burckhardt, c'est donc le texte de Buonaccorso Pitti, marchand florentin de la deuxième moitié du XIVe, début XVe siècle, qui a écrit un texte, la Chronica, qui est un texte d'ailleurs beaucoup moins intéressant, il faut le dire, par rapport au texte de Cellini. Et puis, il y a ce texte qui reste quand même assez important pour plusieurs raisons, que le texte de Pape Pie II, Aeneas Piccolomini, les commentaires, et c'est entre autres considéré comme assez rare parce que c'est le seul texte autobiographique qu'on a écrit par un pape. Donc, un texte qui a aussi son importance dans cet autre contexte-là. Et puis, on a ces deux autres textes. Le texte de Cardano, de Vita Propria, un texte d'ailleurs qui a quelque chose à voir avec Cellini parce que c'est un texte extrêmement cruel, où il raconte pas mal de choses assez laides qu'il a fait dans sa propre vie, et entre autres les rapports qu'il avait dans le cadre de sa propre famille, etc. Donc c'est un miroir assez franc, où il se démontre comme quelqu'un qui n'est pas forcément très admirable ou très beau. Et finalement, on a ce dernier texte qui est un peu l'opposé de ça, c'est-à-dire le texte de Luigi ou d'Alvise Cornaro, qui est un Vénitien de la deuxième moitié du XVIe siècle, où lui nous explique comment il a eu une vie extrêmement dégénérée. Et puis, à un moment donné, il a décidé qu'il fallait s'arrêter et il fallait donc devenir un homme vertueux. Et donc, il a écrit ce texte, Discorsi della vita sobria, un texte qui était d'ailleurs détesté par Nietzsche. On peut très bien comprendre pourquoi. Mais ce texte est considéré comme, en quelque sorte, un texte complémentaire par rapport à ces autres textes excessifs. Donc, vous voyez que tout en se restreignant à un éventail de types de textes beaucoup plus limités que les égaux documents de Schultze, en fait, Burckhardt avait quand même pas mal de recherches devant lui. Il y a, bien sûr, des choses qui ne sont présentes ici. Par exemple, on est dans un cadre où il y a toujours des aristocrates et peut-être quelques artisans, mais on ne va pas plus bas dans la société. Il n'y a presque pas de femmes dans la liste un peu plus grande qu'il a dressée. Tandis que, par exemple, si on regarde la liste et le conspectus que nous fait Schultze, il y a beaucoup plus de variétés, y compris, par exemple, beaucoup plus de textes de femmes. On connaît ces textes connus de, par exemple, des journaux des femmes juives du XVIIe siècle et ainsi de suite. Mais voilà qu'on est ici limité par ce qu'on a. Alors, on a par la suite, bien sûr, développé la ligne de Burckhardt. C'est un texte sur lequel je vais revenir, qui est un livre très intéressant par l'historien américain James Amblang, où, en fait, il a pris que des autobiographies écrites par des artisans. Donc, exclusivement les autobiographies des artisans en Europe, à l'époque moderne. Et il dresse un bilan, et c'est assez impressionnant le nombre qu'il a trouvé, disons, entre le XVe et le XVIIIe siècle. Il y a vraiment plusieurs centaines de ces textes, petits, grands, moyens, etc. Mais ça existe. Puis, on a, par exemple, des gens qui ont voulu pousser les choses vers les échelons plus hauts. Par exemple, cet ouvrage collectif dirigé par Pierre Monnet et Jean-Claude Schmitt sur les autobiographies souveraines. On n'a donc que des textes écrits par des souverains dans le cas européen, mais aussi en puisant plus loin. Et parmi lesquels, bien sûr, on donne toujours une place d'honneur à quelqu'un qui a passé au moins une partie de sa vie en Inde, qui est donc Babur, de la fin du XVe, début XVIe siècle, et auteur de cette autobiographie, Odyssée Mémoire, le Baburname, traduit par la suite en persan sous le titre de Vakhyat-e Baburi. Donc, ce personnage qui a passé sa vie comme prince itinérant pour finir comme empereur ou comme roi, mais tout à fait à la fin de sa vie. Donc, il passe que 4 ou 5 ans en tant que roi par rapport aux autres 45 ans où il est en train de chercher un royaume. C'est un prince sans royaume. Et ce texte, d'ailleurs, a été très important pour un certain nombre de gens qui ont voulu, en quelque sorte, reprendre la thèse de Cellini pour l'amener en Inde. Et je vous donne juste un exemple. Ça, c'est un article qui s'appelle « L'humanisme des steppes », dans lequel l'auteur, un historien américain, Stephen Dale, nous a proposé qu'il fallait analyser le texte de Babur comme, parce qu'il représente pour la civilisation islamique ce que Cellini a représenté pour l'Europe. Donc, vous voyez, on est en train de littéralement transporter le cas, l'analyse de Burckhardt et ses matériaux vers l'Inde et vers le monde musulman. Et on a aussi voulu faire ça avec les textes produits par les enfants de Babur et autour de ses enfants. D'ailleurs, un texte écrit par sa fille, le texte à gauche de Gulbadan Begum, une des filles de Babur, qui a aussi écrit un récit de vie, un récit autobiographique. Je vais donc aussi par la suite revenir sur ce genre de matériaux. Alors, dans le temps qui me reste, je vais donc passer finalement à un exemple. Il y a bien sûr beaucoup plus à dire sur le cas musulman. Ça aussi, c'est quelque chose que je vais développer dans les cours à venir. Le problème de savoir s'il y a ou s'il n'y a pas une grande tradition d'égo documents dans le monde arabe, qui est d'ailleurs, encore une fois, il faut s'affronter à l'avis du grand orientaliste Rosenthal, Franz Rosenthal, qui a voulu nous expliquer qu'il n'y avait pas de tradition en arabe, quand en réalité, on sait qu'il y avait des textes comme le texte d'Al-Suyuti, dans lequel il parle de l'existence de ce qu'il dit que sont des récits biographiques de soi-même. Et donc, ça revient à peu près à l'égo-document, à l'autobiographie. Mais Rosenthal a voulu nier ça. Il a voulu, en fait, classer tous ces documents qu'on connaît. Par exemple, le texte d'Ibn Eyas, très connu, qui est un journal tenu au Caire à l'époque des Mamelouks. Il a voulu éviter tout cela et écarter tout cela de ce cadre. Et on peut donc éventuellement reprendre ces questions. Alors, donc, finalement, l'exemple précis pour aujourd'hui. Et j'ai donc décidé de commencer par un cas toujours un peu excentrique. Et c'est ce cas-là. C'est le texte de quelqu'un, un Portugais, qui était parmi les textes de l'époque moderne portugaise les plus connus. On dit souvent que dans le monde moderne portugais, il n'y a probablement que trois textes qui ont eu ont été vraiment connus en dehors de Portugal, en quelque sorte. Donc, ces trois textes sont les Lusiades de Camões, le texte Trabalhos de Jesus, du frère Tomé de Jesus, qui a été captif dans le Maghreb, et puis il y a ce texte-là. Le texte Phénomène de Spinto, qui s'appelle Pérégrination. Donc, c'est un texte qui est écrit par ce monsieur. Ça, c'est une espèce de statue imaginaire de lui dans le monument fascisant qu'on a à Lisbonne, qui a été construit par Salazar dans les années 1960. Si vous êtes à Belém, vous allez trouver Phénomène de Spinto sur ce monument. C'est un livre qui est donc, et je vais revenir sur ce problème-là, publié en 1614, et voilà le titre. Peregrinação do fenômeno de Espírito, em que dá conta de muitas e muito estranhas coisas que viu e ouviu no reino da China, no da Tartária, no do Sornau, que vulgarmente se chama Sião, e assim de suite. Então, a peregrinação do fenômeno de Espírito, onde ele se rende conta de diversas e très étranges coisas que ele a vu e entendu dans le royaume de la Chine, de Tartarie, de Sornau, que é normalement vulgairement appelé Sion, Calamignan, Pégou, Martaban, et aussi beaucoup d'autres royaumes et seigneuries des parties orientales, publié donc par Pedro Kraspek, imprimeur flamand à Lisbonne, 1614. Donc, qui est l'auteur de ce texte? Voilà ce qu'on connaît de la vie de Phénomène de Spinto. Phénomène de Spinto, on ne connaît pas la date de naissance. Il est né autour de 1510-1511, à un endroit qui s'appelle Montemor Velho, pas loin de Coimbra, donc plus ou moins dans le centre de Portugal. À l'âge de 10 ans, il arrive à Lisbonne, on le sait parce qu'il dit qu'il était présent quand il y avait les obsèques du roi Dom Manuel, mort en 1521. Puis il est rentré dans, comme petit page ou serviteur dans une maison aristocratique d'une dame qui s'appelait Donna Joana Silva y Castro. Cette dame avait donc un rapport amoureux avec un autre aristocrate et elle et son amant ont été donc tués par le mari. Fernand de Spinto a pris la fuite. Il a disparu pendant à peu près 7-8 ans. Il a même disparu de sa propre texte, de sa propre autobiographie. Il revient donc dans les années 1530 autour de Lisbonne, hein, où il est associé avec une grande famille, une famille qui s'appelle Faria. Et puis, il est aussi associé avec l'ordre militaire de Santiago. À l'âge de 27 ans à peu près, ou 26 ans, il va prendre le bateau pour partir en Inde. 1537 mars. Il arrive au Gujarat, 1537 septembre, et puis, après avoir passé à peu près un an et demi, deux ans en Inde, il va partir à l'Est. Donc, la plupart de sa carrière asiatique, qui va durer jusqu'en 1558, donc 21 ans en Asie, sans revenir, donc 21 ans, il va passer de Malacca. Puis il est au Japon. Il dit qu'il était un des premiers Européens qui a mis pied au Japon. On ne sait pas si c'est vrai ou non. Il était au Japon, il était en Chine. Pendant deux ans, il est rentré dans la Société de Jésus. Entre 1554 et 1556, il est frère Fernand Mendes. Et donc, il apparaît dans un certain nombre de documents, y compris dans des lettres de François Xavier, parce qu'il était associé avec François Xavier même avant de rentrer dans la société, Xavier étant mort déjà en 1554. Puis, en 1558, il revient en Portugal, et il écrit son texte entre 69 et 78. Il est déjà, dans les années 1560, lié avec des gens de la cour, des grands intellectuels. Il devient un formateur très important pour tout ce qui est l'histoire asiatique. Il est donc entretenu par les grands portugais comme Jean de Barros, mais aussi les Florentins vont envoyer un émissaire, Bernardo Neri, les Médici vont envoyer un émissaire juste pour parler avec lui sur l'Asie. Et finalement, le grand jésuite Gianpietro Maffei va parler avec lui juste peu avant sa mort. Il va incorporer donc les informations de Mendes Pinto dans son propre texte à lui, son histoire de l'Asie. Finalement, il meurt à Almada, donc l'autre côté de la fleuve de Lisbonne, en 1583. Pendant 30 ans, son livre n'a pas vu le jour. On sait qu'il y avait deux ou trois personnes qui avaient regardé des petits bouts de ce texte. Mais finalement, ça va sortir, mais remanié par quelqu'un d'autre. Donc, là, vous voyez, déjà, il y a un problème, et qui est un problème qu'on va rencontrer souvent. On ne sait pas, même techniquement, qui est l'auteur. C'est-à-dire, il y a plusieurs auteurs. Il y a lui, l'auteur, à l'origine, mais puis il y a au moins deux autres personnes, parmi lesquelles il y a une personne qui est un des chroniqueurs de l'époque, Francisco de Andrade, qui, on sait, a manipulé le texte, qui a fait un certain nombre de choses avec. Donc, comme on n'a pas de version manuscrite, on n'a que la version imprimée, on ne sait pas exactement par quel processus le manuscrit délaissé en 1583 est devenu le texte publié en 1614. Donc là, déjà, un petit problème typique posé par les textes imprimés et pour lequel on peut dire que là, par exemple, en Inde ou dans le monde musulman, où on n'a pas d'imprimerie à l'époque, en quelque sorte, on est peut-être mieux placé parce que ce passage par l'imprimerie, ça peut parfois fausser les choses. Alors donc, vous voyez un peu le cadre dans lequel il a fonctionné. Il est en Inde, puis il est en Asie du Sud-Est, il est en Asie orientale. Il est donc, comme je vous ai dit, lié vers les années 1560, quand il rentre avec le chroniqueur officiel Baruch, à qui il donne des informations. Et là, vous voyez une tentative de reconstruire un peu son itinéraire. Vous voyez la densité de sa présence en Asie orientale. Alors, le problème, cependant, c'est que personne n'a su quoi faire avec ce texte. C'est un grand succès d'édition au XVIIe siècle. Ça a vendu comme des petits pains au Portugal, puis ça a été traduit tout de suite en espagnol. Puis, il y a des versions dans toutes les grandes langues de l'Europe, y compris, là vous voyez la version française, Le voyage aventureux de Fernando de Espíritu, qui a été donc traduit par le sieur Bernard Figuier, ça veut dire Bernardo Figueiro, et dédié au cardinal de Richelieu, déjà en 1628, 14 ans après la publication en portugais. Le problème, c'est qu'on n'a pas su quoi faire avec. Il y a une ligne très importante qui a été développée au 19e, surtout au 20e siècle, selon laquelle il ne fallait absolument pas traiter ce texte comme récit de vie. Donc, pour certains, c'était un faux récit de vie, parce qu'on a dit que c'était en réalité un texte satirique. C'est l'idée développée tout d'abord par Antonio José Saraiva et puis développée par l'historienne américaine Rebecca Katz, à Satire sociale de Fernando de Espíritu, dans lequel l'idée, c'est que tout cela, c'est de l'exagération délibérée pour se moquer des Portugais. Mais pourquoi est-ce qu'il voudrait se moquer des Portugais quand il faisait partie justement de cet empire? Alors là, on a développé un deuxième aspect. Ça, c'est développé déjà par Saraiva et d'une façon beaucoup plus exagérée par Rebecca Katz, dans lequel on a donc voulu argumenter, présenter la thèse selon laquelle c'était un marran. Donc l'idée, c'est que c'était un marran, c'était un nouveau chrétien, quelqu'un qui n'aimait pas les Portugais, qui n'aimait pas l'Empire portugais. Et donc le texte était construit dans cette optique de marran. Le seul problème, c'est qu'on n'a absolument pas de preuves. On n'a pas de preuves généalogiques, on n'a pas de preuves même en termes textuels. Et en fait, à première vue, ou même à deuxième vue, on a l'impression que c'est un texte très chrétien. Il est, comme je vous ai dit, très associé avec François Xavier. C'est quelqu'un qui a donné énormément d'argent aux jésuites. Il a même apparemment donné de l'argent pour construire une des premières églises au Japon. Mais là, vous voyez, si on a envie de tourner en ronde, on peut dire, oui, mais ça, c'est la stratégie typique du marran qui veut cacher son identité en donnant de l'argent aux chrétiens. Donc, voilà la façon dont on a voulu présenter les choses à son égard. Mais la réalité, c'est aussi qu'il y a un autre problème qui se pose, c'est-à-dire des gens qui ont décidé, depuis le XVIIe siècle, que c'était tout simplement un menteur. Et ça, c'est aussi les plaisanteries basées sur son nom. Donc, il s'appelle Fernão Mendes Pinto et on disait Fernão Mendes Minto. Fernão, est-ce que tu mens? Oui, je mens. Donc, là, c'est un compte-rendu publié récemment de la traduction en anglais dans le New York Times, dans lequel le titre, c'est donc « Le plus grand menteur de tous ». L'idée étant que c'est quelqu'un qui a voulu inventer des choses, inventer des aspects de sa vie et ainsi de suite. Mais la réalité, c'est quelque chose en fait, sur lequel on va revenir avec les autres exemples qu'on va traiter dans les semaines à venir, c'est qu'on peut quand même, en quelque sorte, contrôler le texte. On peut contrôler le texte par rapport à d'autres documents, de documents écrits par lui, de documents écrits par autrui, comme par exemple par François Xavier lui-même, hein, et même s'il a cette espèce de façon extrêmement misérabiliste de présenter sa propre vie, hein, les grands et continuels travaux qui m'ont accompagné depuis ma naissance et parmi lesquels j'ai passé mes premières années, ainsi de suite, il continue toujours en racontant comment il a été misérable, comment il a été vendu, comment il a été esclave, on ne sait pas combien de fois. Mais la réalité, c'est que derrière tout cela, on peut entrevoir un réseau de commerce, des gens qui ont vraiment existé. Les rapports, certes, parfois aussi distordus à cause du fait ce texte a été écrit à peu près 11 ans ou 15 ans après son retour au Portugal, donc il y a certainement des effets produits par ça. Mais j'ai voulu commencer avec ce texte justement parce que ce texte, en quelque sorte, pour moi, représente un exemplaire de quelque chose. Un exemplaire de quelque chose, c'est-à-dire cette espèce de égo-document entre vérité et mensonge, entre présentation de soi et façonnement de soi, hein, entre les mensonges soi-disant de l'auteur et les surinterprétations des lecteurs, hein, y compris ceux qui ont voulu, par exemple, insister sur cette histoire de son identité marane qui n'est absolument pas démontrée. Et voilà, donc on a ça comme exemple, et bien sûr un exemple qui est aussi très intéressant parce que c'est lié avec cet autre personnage, François Xavier, qui lui aussi a laissé quelques égo-documents, notamment des lettres, dans lesquelles il parle aussi de lui-même, mais d'une façon assez voilée, il faut le dire. Et donc, c'était juste pour avoir un premier point de départ. Puis, par la suite, on va essayer de reprendre d'autres exemples en allant de l'Europe en Asie, de l'Europe en Amérique, et aussi traitant une série d'exemples venant du monde musulman. Donc, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là.